Voilà, le daf nun vav amud alef. Anoder min habayit mutar be'aliyah divrei Rabbi Meir. Celui qui a fait un neder de pas profiter, rentrer dans la maison. Alors, il a le droit de rentrer néanmoins dans la aliyah, c'est l'étage. À l'époque, c'était même pas vraiment communicant, il y avait une trappe et il y avait un escalier mobile. Donc on monte à l'étage, c'est une entité à part. Est-ce que c'est inclus dans Baït? Alors Rabbi Meir dit que c'est pas inclus, donc ça échappe au vœu. Mais Rachamim Omrim, Aliya Bichla la Baït. La Aliya, c'est inclus dans le Baït. Donc ayant mentionné Baït, c'est inclus Aliya. Et il est interdit de profiter et de l'Aliya et du Baït. Anoder min Aliya mutar be Baït. Si par contre le vœu porté sur Aliya, c'est spécifique. On n'appelle pas le rez-de-chaussée Aliya. Aliya, c'est l'étage. Et donc, c'est que l'étage qui est concerné et non le Baït. Le Baït, ça pourrait s'entendre que ça inclut tous les niveaux. Le rez-de-chaussée de plein pied et ce qui est à l'étage. Et ça, c'est la marloquette. Gemara mantana be Baït le rabot et ha yatsia be Baït le rabot et ha Aliya. Qui est le Tana de cette Braïta qui dit à propos de Tzarat à Baït que le mot Bevaït ou Bevet c'est pour inclure Yatsia et pour inclure Aliya? C'est quoi Yatsia? D'habitude, Yatsia c'est comme un petit bâti attenant à la maison, comme une petite extension. Mais là, les Rishonim nous disent pour certaines raisons, ça peut pas être ça. C'est plutôt Tzavua. Le Ran, il est Gorest, Tzavua. D'où savons-nous que Tzarat HaBayit s'applique également à une maison qui est de couleur? Il y a une maison à l'état brut et il y a une maison qui est peinte. Alors d'où on sait que même une maison qui est peinte et qui est donc de différentes couleurs est sujet aux lois de Tzarat HaBayit? Parce que, s'agissant des habits, il n'y a pas Tzarat HaBeged si l'habit il est teinté. Que s'il est à l'état brut, c'est-à-dire la laine de sa couleur naturelle ou le lin de même. Mais s'ils ont été teintés, alors il n'y a pas le din de Tzarat HaBeged. Ça s'apprend. Eh bien, on aurait pu penser qu'il en est de même pour le Baït. C'est pourquoi la Torah devait inclure même un Baït, sa voix, est sujet au din de Tzarat HaBatim. Également, la braïta du mot Baït inclut la Aliya. Que s'il y a une Tzarat HaBayit à l'étage, sera le din de Tzarat HaBayit. Faudra le traiter comme on traite Tzarat HaBayit, on fait appel au Kohen, etc. Toute la procédure qui est relatée là-bas. Dans Parashat Metzora. Alors, qui est le Tana de ce passage? Nous dit Rav Rizda, c'est certainement Rabbi Meiri. Ça peut être que Rabbi Meir. Parce que des Rabbanan, Amri Rabbanan, Aliya Bichla la Baït. Rabbanan ont pourtant dit que l'Aliya s'est inclus dans un Baït. La Malikra, Bevaït le Ribouya. Pourquoi ai-je besoin d'un pasuk Bevaït pour inclure même l'Aliya? Mais elle est d'emblée inclue dans Baït. Puisque quand on parle de Baït, ça inclut naturellement l'Aliya, j'avais pas besoin d'un ribouille. Pourquoi le Tana, auteur de la Braïta, il trouve nécessaire qu'on ait un ribouille? Et il trouve ce ribouille dans le mot Bevaït. C'est donc a priori une preuve que l'auteur de cette Braïta, c'est Rabbi Meir. C'est l'approche de Rav Chisda. Abaye Amar, Rafilu Teme Rabbanan. Pas question, ça peut même aller comme Rabbanan. Bar Yakra, on a néanmoins besoin d'un pasouk parce que des sales kadatachamina, ça me venait à l'esprit de dire Bevet eretzakuzatrem. Le texte dit bien que Venatati, je mettrai Negatzarat, Bevet eretzakuzatrem. Hachem annonce quand vous rentrerez en terre de Kenan et que je ferai apparaître sur les maisons des Tzarat, c'est marqué Bet eretzakuzatrem. On n'a pas vu Eretz, ça veut dire des Michaber Behara. Shme Bayit. C'est lui qui s'appelle Bayit, celui qui est Mechoubar à la terre, c'est-à-dire le rez-de-chaussée qui est de plein pied. Lui, il s'appelle Bayit, parce qu'il ne s'agit pas de Stam Bayit, il s'agit de Bet Eretz, Achuzatrem. Mais Aliya Alomicha Berbehara, l'étage n'est pas relié au sol, et donc c'est pourquoi il fallait un ribouille pour inclure le din de Tsarata Bayit concernant la Aliya. Mais en temps normal, Bayit tout court, on peut très bien maintenir comme Chachamim que ça inclut la Aliya. Donc pour Abaye, la Braïta se porte très bien, elle va très bien après Rabbanan. D'habitude, Bayit ça comprend Aliya, mais ici, ça s'entendait dans le passé, Davka, la maison de la terre veut dire Bayit relié au sol. J'aurais cru que Aliya n'est pas inclus qu'à Mashmalan que si. Il y a ici un petit problème au niveau de la source sur laquelle on s'est appuyé dans la Braïta. Quel est ce pasouk? La Braïta ne dit que le mot Bevaït ou Bevet. Le Ran dit que c'est le pasouk qu'on a finalement, que Abaye a repris. C'est le même pasouk. Bevet eretz velatatine gatzarat bevet eretz achuzatrem. Alors c'est très bizarre. Qu'au début, le Tana il veut faire de ce Bevet eretz achuzatrem un ribouille. Et Abaye nous dit maintenant, c'est restrictif, au contraire. Quand je dis Bevet Eret, ça s'entend le Bayit relié à la terre. Alors d'où tu apprends un ribouille pour inclure même la Aliya, qui elle n'est pas reliée à la terre, dans le même mot? Mais non, Bevet Eret, ça s'entend Dafka, Mechoubar au sol. C'est pas évident de comprendre ça, je sais pas. J'ai trouvé qu'ils ont soulevé la question là-bas dans la Gemara à Scroll. Et ils ont ramené que certains voient dans le pasouk de la Braïta une autre référence. C'est parce que dans les passages de Tsarat Abayit, c'est écrit à maintes reprises Abayit. Alors un de ces termes qui est superflu servirait au Tana de la Braïta de ribouille pour inclure la Aliya. Et là du coup ça passe bien parce que d'une part on aurait entendu Bevet Eretz Achuzatrem, il faut un Bet Eretz, c'est la maison reliée au sol et non pas la Aliya. C'est ce que j'aurais pensé, c'est pourquoi il faut Bebayit pour inclure même la Aliya. Et donc ça s'accorde très bien avec Rabbanan. Point. Kema nazla de amaravuna barhiya mishmei de oula. Comme qui va l'enseignement de ce Amoura? Au nom de oula. Bayit beveti animocher lecha. On a signé un accord, Ruven et Shimon. Une maison, dans ma maison, je te vends. Ça veut dire un appartement, un logement dans ma maison. Disons quelqu'un avait une grande maison dans laquelle il y a plusieurs logements. Il dit, je te vends une maison dans ma maison. Maré ou Aliya, il peut lui montrer l'étage. Il n'est pas obligé de lui montrer un rez-de-chaussée. Il peut lui refiler un étage. Tama de amar le bayit shebeveti ani mocher lecha. C'est bien parce que précisément, il avait convenu une maison dans ma maison. Alors une maison dans ma maison, ça peut être n'importe laquelle. Niveau 1, niveau 2, peu importe. Aval bayit stam, mais si dans le contrat on avait signé je te vends ma maison ou une maison, El Omare ou Aliya, tu ne pourras pas lui refiler. Tiens, je te montre. Voilà, ta maison elle est là, c'est l'étage. Attends, tu m'as dit une maison sur le rez-de-chaussée. Donc on entend dans cette braïta, hein, plutôt le point de vue de Rabbi Meir, c'est ce que demande la Gemara Lema Rabbi Meiri. Est-ce qu'on va dire que c'est conforme à Rabbi Meir? Et ça voudrait dire que Oula, il aurait retenu Halakha et Rabbi Meir, puisque c'est ce qu'il met en application dans les lois de Mamonot, parce que ce digne de la Mishnah, c'est par rapport à Nedarim, Lachon Bnei Adam, est-ce que Bayit comprend l'IA ou non? Mais ça peut avoir des incidences directes sur Dine Mamonot. Dans le cas d'une vente, qu'est-ce qu'on a signé? Est-ce que j'ai parlé de ça ou de ça? Alors, la Mimra du Amora nous dit, cette maison, dans ma maison. Ça veut dire, là, comme je dis, dans ma maison, ça peut être n'importe quelle partie, même l'étage. Mais si je n'ai pas dit dans ma maison, juste Bayit, on a signé pour un Bayit, ça peut être qu'un Bayit de rez-de-chaussée de plein pied, et non pas l'étage. Mais c'est Rabbi Meir, ça. Dis la Gemara, filou te mara banan. Tu peux même traduire l'enseignement de Oula selon Rabbanan, bien sûr en l'entendant différemment. Comment? Mai Aliya, hein, Meoula, Shebabati. Que disait Oula? Il doit lui montrer Alia, Alia veut pas dire l'étage. Alia veut dire le meoulé, le meilleur choix parmi ces maisons. Comme il a dit, je te vends un baït chez Beveti. Un baït Beveti, ça veut dire une parmi d'autres, c'est la meilleure. S'il avait dit, je te vends baït, ça peut être la plus médiocre. Il a plusieurs appartements dans un même, une même maison. Il peut lui enfiler le moins bon. On n'a pas désigné. Tant qu'on n'a pas désigné, on a dit, voilà, je te vends ici un logement, c'est au choix. Je peux te coller le moins bon. Mais comme j'ai dit, baït Beveti, ça désigne une parmi d'autres, c'est une qui est particulière, la meilleure. Et c'est ça le sens et le terme Aliyah. Pas Aliyah au sens d'étage, mais Aliyah au sens de Meoula chez Babati. Donc c'est encore une fois, bien sûr, une règle de Mamonot, mais qui n'a rien à voir avec les termes Baït v'Aliyah de notre Mishnah. C'est en marge du débat de la Mishnah. Donc on n'a aucun indice à travers ça que la Lacha serait comme Rabbi Meir. Logiquement, on devrait faire comme d'habitude à l'Acha Kechachamim. Gemara, pardon, prochain Mishnah. Hanoder mina mita mutar be dargash. Divrei Rabbi Meir. Vachachamim amrim dargash bichlal mita. Quelqu'un a fait un vœu de ne pas profiter d'un lit, alors il a néanmoins le droit de profiter d'un dargash. C'est quoi exactement? C'est une sorte de lit, on va définir dans la Gemara. Divrei Rabbi Meir. Vachachamim amrim dargash bichlal mita. Le dargash fait partie de mita. Et donc quand on dit mita, ça inclut, c'est le générique, ça inclut aussi dargash, tout est interdit. Hanoder mina dargash mutar be mita. Mais dargash, c'est un type de lit très spécifique. Donc quand tu l'as désigné dans le vœu, c'est que lui et pas le mita classique. C'est le dargash qui assure et non la mita. Maï dargash, c'est quoi un dargash? Amaroula, arsa degada, c'est le lit en araméen, arsa degada, du mazal. En araméen, gada, ça veut dire le mazal. Ils avaient l'habitude, certains, d'avoir chez eux un lit majestueux, joliment fait et qui est majestueux, mais qu'ils n'utilisaient surtout pas. Ils avaient une prétention que c'est favorable pour un bon mazal pour toute la famille. Alors ils avaient ça chez eux. Très bien. Et bien ce lit, on l'appelle Arsa Degada, le lit du mazal. Et donc, est-ce qu'il est inclus dans Mita? C'est un lit. Sauf que c'est un lit joliment fait, majestueux, et qu'on n'y touche pas, etc. D'accord, mais ça reste un lit. Est-ce qu'il est inclus dans Stam Mita? C'est la marque loquette. Rabbi Meir dit que oui. Non, c'est permis. Et Rachamim dit, c'est inclus. C'est donc interdit. Il ne fait pas office de lit. Mais c'est quand même un lit. D'où la machloket. Amrou le Rabbanan le Oula. Les Talmidim ont dit à Oula, on a un problème avec cette définition. On verra que finalement, on va convenir que c'est autre chose le dargash. Mais pour l'instant, on ne connaît que la définition de Oula. En deux mots, Arsa Degada, le lit du Mazal. Alors les Talmidim nous ont dit, Haditnan, ce qu'une Mishnah nous enseigne dans ma Maseret Sanhedrin à propos du Kohen Gadol qui est endeuillé. Keshen Mavrinoto, quand lui fait la Seudat Avraha. Seudat Avraha, c'est le repas après l'enterrement pour les proches. Alors, eux, on les sert d'une nourriture qui leur appartient surtout pas. C'est les gens qui doivent venir se dévouer et lui servir à l'endeuillé. Alors, le Kohen Gadol en tant qu'endeuillé, il a droit à un traitement un peu particulier. Comment? Kola mesubin ala aretz. Tous les gens qui viennent partager le repas et l'entourer à ce moment-là, ils sont assis au sol. Par kavod pour le Kohen Gadol qui est endeuillé. Veu mesev ala dargash. Et lui, il est assis sur un dargash. C'est le nom d'un certain lit. Et donc, selon Oula, c'est quoi le dargash que nous venons de dire? C'est Arsa Degada, le lit du Mazal. Kula Shata Loyativ, disent les Talmidim à Oula. Toute l'année, le Kohen Gadol et personne ne s'assoit sur ce lit, même pas le Kohen Gadol. C'est un lit, je rappelle, majestueux, très beau, très joli, bien fait, mais qu'on ne se couche surtout pas dessus parce que c'est juste pour le Mazal. C'est juste pour un signe de bon mazal pour le foyer. Alors maintenant, toute l'année, on ne s'assoit pas dessus. Et que le Kohen Gadol, il endeuillé, c'est ce jour qu'il va s'asseoir dessus. On va lui réserver des honneurs plus. C'est bizarre. C'est bizarre. Ah oui, Yoma Yativ, là, ce jour-là, il va lui se permettre de s'asseoir dessus. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne comprend pas trop. Donc ta définition, elle n'a pas l'air de coller avec cette référence, parce que ça nous laisse en difficulté là-bas pour comprendre le sujet du Mishnah. C'est que ce n'est pas la bonne définition. Peut-être faut penser à une autre définition, comme on verra plus loin. Et là-bas, ça passera beaucoup mieux selon l'autre définition, comme on dira après. Matkif la Ravina. Ravina, il contre-attaque. Ça veut dire, il rebondit sur la question des Talmidim. Il dit quoi ? Midé de Ava Basar Veyayin. Mais tout à fait. De la même manière que c'est le cas pour viande et vin. Des koula shata ibay achil veibay lo achil. Tout au long de l'année, le Kohen Gadol, s'il veut, il peut, mais il n'est pas obligé de manger de la viande ou du vin. Personne ne l'encouragera. Il fait ce qu'il veut. Et ibay lo aouyoma, ce jour où il est endeuillé et qu'on lui fait Seudat Avra. Ananya vinale. Nous, on lui amène viande et vin. On l'encourage à manger viande et vin. Il y a un yann particulier, comme il dit Rashi, le fameux pasouk. Comment c'est marqué? Tenu shechar la oved, je crois. Veyayin le mare nefesh. Veyayin le mare nefesh. C'est ça. C'est un pasouk dans Michelet. Le vin, ça se donne aux gens qui sont en souffrance parce qu'ils sont endeuillés. Alors, on leur donne le vin. Toute l'année, il fait ce qu'il veut. C'est pas sourd, mais il n'y a aucun Inyan qui boit du vin ou qu'on lui donne la viande. Mais là, l'endeuillé, oui. Oui, c'est ce qui est écrit dans un pasouk. C'est fait pour ça, le vin. Pour dépasser la peine et la difficulté du moment. Et donc, le Kohen Gadol, il fait des choses qu'il ne fait pas toute l'année. Alors, peut-être au même titre, il va s'installer sur un dargage, même si toute l'année, c'est pas prévu. Ce dargage, c'est le lit majestueux, qui est le harsa de Gada, le lit du mazal, que personne n'ose s'asseoir dessus. Mais pour l'occasion, le Kohen Gadol, oui. Quel est le lien? La viande, le vin, c'est comme on a dit dans le pasouk. Ça l'aide à dépasser sa souffrance. Alors oui, mais s'asseoir sur le dargage. Alors justement, On l'en pressent un peu quand on lit le Mefaresh, c'est-à-dire Rashi, et certains le disent explicitement dans la Shittam Kubetzet, qu'au même titre. Pourquoi au même titre? Parce que quand tu fais Kavod au Kohen Gadol, au moment où tout le monde vient l'entourer, lui seul s'assoit sur le dargash et tout le monde au sol, alors aussi, ça va peser sa souffrance. De la même manière qu'on recommande le vin et la viande, on va pas lui verser le vin de force dans la bouche, mais c'est recommandé, on lui amène, on lui sert. Et pourquoi? Pour qu'il obtienne Yishuvadat, l'apaisement nécessaire. Alors la même chose, de l'installer sur le dargash. Donc ça passe, malgré que ce lit d'habitude, on ne s'assoit pas dessus. Tu dis, en tant qu'endeuillé, il fallait au contraire réduire son kavod. Non! Réduire le kavod, oui, ça s'entend. Mais là, ça va l'aider à dépasser sa peine et sa souffrance. C'est pourquoi? Pour tout à fait. J'envisage parfaitement, dit Ravina. Donc pour moi, ça cause aucun problème. J'arrive à comprendre la Mishnah Sanhedrin, dit Ravina. Par contre, si ça pose problème, la définition de Oula, c'est avec la référence suivante. Et là, Akashia, voici le problème que j'éprouve, des Tanya. Voilà une référence dans une Braïta, Dargash, Loaya Kofé, ou Elazokfo. On a un digne de Kfiat Amita pour l'endeuiller. Il doit retourner les lits de la maison. Et retourner littéralement. Et on se couche sur le lit renversé, à l'envers. Mais pas sur le lit normal. De nos jours, on ne fait plus que Fiat Amita. Mais à l'époque, c'était un din, parmi les lois de Avelout. Et donc, ça, c'est un lit normal. Mais Dargash, ça échappe à la règle. C'est ce que la Braïta nous dit. On va voir que c'est Marc Loquette, mais le Tana de la Braïta nous dit comme ça. Or, Vei Amrat Arsa de Gadahou. Si tu traduis Dargash par Arsa de Gada, Beatania, mais pourtant, une braïta nous dit Akofet mitato lo mitato bilvad ou kofet. Celui qui fait que fiatamita, ce n'est pas que son propre lit qui doit retourner. et la kol mitot chez lo vetor rabait ou kofé. Tous les lits qu'il a dans son domicile, il doit retourner. Ça veut dire, disons, il est seul, ou ils sont 5 personnes, mais tous endeuillés. Alors on dit, c'est que les personnes endeuillées qui retournent en lit. Non. S'il y a encore 5 lits en plus dans la même maison, on retournera tous les 10 lits. C'est pas uniquement le lit utilisé par le Havel qu'il faut retourner. Tout lit présent dans son foyer doit être retourné. Et donc le Dargash, tu m'as traduit Arsa des Gada. Mais alors pourquoi la Braïta nous dit concernant le Dargash que ça échappe? Qu'on doit retourner tous les lits. Mais nous, on a vu que Dargash échappe à la règle. Si c'est un lit normal, c'est un lit en bonne et due forme. C'est juste que c'est le lit du Mazal. On ne dort pas dessus. Au contraire, c'est même un plus beau lit qu'un lit normal. Et qu'on n'utilise pas. Il est joliment mis et placé, on ne touche pas, etc. C'est pour le signe. On a une prétention que ça joue sur le Mazal. C'est bien, ok, favorable pour le Mazal. Mais on ne se couche pas dessus. Et alors pourquoi lui, on va l'exclure de la règle? Mais il y a une règle que même un lit que tu ne dors pas dessus, il faut le retourner. Alors c'est une question, je ne comprends pas. Ça me cause problème. Si on dira une autre traduction d'Arga, autre traduction, ça passera. Mais avec ta traduction, oula, toi, je n'arrive pas à comprendre ce texte. C'est la remarque de Ravina. C'est que ta traduction n'est pas la bonne. Répond la Gemara à la Kachia, mais ça non plus, ce n'est pas une question. De même que c'est le cas pour un lit qui est fait pour poser, entreposer des kelim. Il existe des fois dans une maison un lit qui est en plus. Ben on en profite pour poser toutes sortes de choses, pour pas qu'il reste au sol. Que la Braïta dit que si on avait dans la même maison un lit fait pour entreposer des kelim, alors on n'a pas besoin de le retourner. Parce que c'est nikar, que c'est pas un lit pour se coucher. On voit bien que c'est un lit qui est toujours encombré avec toutes sortes d'affaires. Donc c'est un établi, c'est pas un lit. Alors on n'a pas besoin de le retourner. Et bien au même titre, le dargash, au sens de arsa de gada, le lit du mazal, également. Tout le monde sait que c'est un lit qu'on ne touche pas, personne ne se couche dessus. On a gâché tout le inyan du mazal, etc. Personne n'osera se coucher dessus. Et donc, comme c'est un lit qui n'est pas fait, qui est bien reconnu que c'est pas fait pour se coucher, on n'a pas besoin de le retourner. Des lits qu'on pourrait utiliser pour se coucher, sauf qu'on n'en a pas besoin, on en a en plus. Eux, on a dit dans la Braïta qu'il faut aussi les retourner. Mais des lits que c'est exclu de les utiliser, on voit bien, visiblement, que c'est pas fait pour se coucher dessus, cela échappe. Donc, comme pour Mita Miuchedet le Kelim, ainsi pour Arsa de Gada. Donc, une fois de plus, on s'en sort bien avec la définition de Oula. Si la Gemara et la Ikashia, mais si ça pose problème. Ah, Kashia, voici où ça pose problème avec une autre braïta, des Tanya. Rabban Shimon ben Gamliel Omer Dargash Matir Karvitav Veunofel Meilav. On a vu avant Tanakama qui disait le Dargash échappe à la règle, on n'a pas besoin de lui faire Kfiyatamita. Et Rashbag dit non, faut au moins défaire les lanières et Nofel. Nofel, ça veut dire que ça tombe. Mais il lave tout seul. Ça s'affaisse. Veille d'argash arsa de gada. Et si tu traduis d'argash par arsa de gada, c'est ça. Hein? Alors karvitin mitles, qu'il a des lanières, c'est un lit classique. Alors les lits de l'époque, c'était 4 pieds d'une certaine hauteur, avec les arkuvot amita, c'est les planches horizontales qui relient les 4 pieds. Il y avait un cordage comme sous forme de quadrillage sur ces 4 arkuvot amita. Et par-dessus, on mettait la literie. D'accord ? Un matelas ou autre, je ne sais quoi. Donc ça, c'était en bref une mita à l'époque. Maintenant, Dargash, d'après Oula, c'est un lit classique, sauf, et peut-être même encore plus beau qu'un lit. D'accord ? C'est pas pour se coucher, c'est pour le mazal, très bien. Mais ça reste un lit. Dans sa conception, c'est exactement un lit classique. Par conséquent, pourquoi Pourquoi on parle ici de carvétines? Carvétines sont des lanières. Mais dans un lit, il n'y a pas de lanière. Il y a un cordage. Et sur ce cordage, qui s'attrape sur les quatre arcuvot amita, le cadre, alors on pose par-dessus. Mais où il y a des lanières, on ne voit pas. Et donc, là, ça bloque. Là, ça bloque. La traduction de Oula ne passe plus. Et donc, il faut se tourner vers une autre traduction. Et là, tout va être débloqué avec ça. Bon, la Gemara, elle cherche à débloquer le dernier problème, parce que c'est le seul problème substantiel. Les autres sujets qu'on a vus, ben on a déjà répondu où là pouvait s'en sortir, mais selon la nouvelle définition, ça passera encore mieux, plus facilement. Comment ? Alors, qui a ta Ravi, Inamar ? Quand Ravi est revenu d'Eretz Israël, il nous a dit « Shail te la umera banan, j'ai questionné ce Talmid Chacham, verav tachlifa barmar vacheme, et voici son nom, davashriyar beshuka de tzal'e. Il avait ses habitudes dans le chouk des ratzanim, ceux qui font, des tanneurs. Donc il avait, peut-être qu'il avait des affaires avec la tannerie, je ne sais pas, mais en tout cas, il s'y connaissait puisqu'il était en contact permanent avec ces gens du métier, les tanneurs. Va Marli, et ben lui m'a donné l'explication. Maïdargash, arsa detzal. Arsa detzala, c'est un lit en peau. Un lit avec une peau, ça veut dire, bien sûr, il y a un cadre en bois comme tout lit, mais la surface sur laquelle on s'allonge, c'est une peau tendue. Ce n'est pas un quadrillage avec des cordages et sur lequel on met la literie. Non, c'est directement une peau tendue. Alors, les extrémités de cette peau, elles se terminent avec différentes lanières tout autour, et ces lanières sont attrapées tout autour du dargash. Et le lit en lui-même, c'est un concept de lit mobile. Vous pouvez le démonter et le remonter plus facilement. Il était léger. Les gens riches le transportaient avec eux ou le faisaient transporter dans leurs déplacements. Et ça, c'est un dargash. Nouvelle définition. Et bien, après ça, je comprends très bien le sujet de Rashbag. Il y a des lanières, effectivement. Aux extrémités, on a dit, il y a des lanières. Tu défais les lanières et hop, ça s'affaisse. Et ça, c'est ça la kfiyat amita requise pour un dargash. Tanakama dit qu'il n'y a pas besoin. Et Rashbag dit non, il faut faire quelque chose. Tu ne peux pas faire une vraie kfiyat amita, on va l'expliquer tout de suite. Alors au moins, défais les lanières et ça s'affaisse. Pourquoi le dargash, ce serait différent? Puisque c'est un lit pour se coucher dessus. Alors il n'y a aucune raison de dire qu'on n'a pas encore l'autre lit, on avait dit, bon, c'est pas fait pour se coucher, c'est juste pour le mazal, donc c'est comme le lit des kelim, alors on n'a pas besoin de faire kfiyat amita selon Chachamim, ça s'entend. Mais maintenant, qu'on dit que ça reste un lit classique, c'est pour dormir. Sauf que dans sa conception, il est un peu différent. Et Rashbag, il trouve une solution. Je dis, enlève les lanières et Tanakama dit, non, laisse-le tel quel. Pas besoin de faire de kfiya. Alors le Ran nous dit parce que c'est une peau en cuir. Et si on retourne ce lit, comme les pieds ne montent pas plus haut que le niveau du plan incliné, la peau, elle va être à même le sol. Le sol pouvait être humide à l'époque, c'était de la terre. Ça pouvait abîmer le cuir. Pour ne pas l'abîmer, on ne t'a pas demandé de le retourner. Laisse-le sur ses pieds, et là, il y a la hauteur habituelle qui fait que le cuir, même quand tu t'allonges dessus, il ne touche pas. Donc c'est pourquoi Rachamim m'ont dit, ça échappe à la règle. Et Rashbag dit non. Ça n'échappe pas, tu dois défaire et la peau s'affaisse. Elle va s'abîmer. Alors ça, je ne sais plus où j'ai vu que ça c'est moins gras. C'est l'envers qui s'humidifie un peu. Ça devait être une peau épaisse certainement. Si l'envers s'abîme un peu, on n'est pas tellement... c'est pas majeur. Donc c'est pourquoi on t'impose de le faire. Ça, c'est la marque loquette. Maintenant, et quand on a dit au nom de Tanakama que le dargash n'a pas besoin de Kfia, c'est pas exactement ce qui est écrit. C'est écrit lo yakofeu et la zokfo. Est-ce que zokfo veut dire le retourner d'une certaine manière ou c'est le laisser tel quel? Il y a deux traductions ici dans les Rishonim. Certains disent zokfo, ça veut dire tu le laisses dresser. C'est pas que tu le dresses, tu le laisses dresser sur ses pieds tel quel. Tu lui fais rien. Et Rashbag, ils disent ce qu'on a vu. Et d'autres Rishonim disent zokfo, ça veut dire tu le mets sur le flanc. Tu le redresses sur son flanc. Donc il y a le pied maintenant qui est horizontal, qui est les pieds sont sur le même plan que le sol, et le plan horizontal du lit, il est vertical. C'est comme ça qu'on ferait d'après Tanakama. Alors que pour un lit, quand on fait Kfiat Habitat, c'est qu'on le retourne complètement à l'envers.
Comment il dort sur ce lit
Je ne sais pas, je pense que ça veut dire qu'il n'utilise pas, je crois.
On est en train de dire qu'il se mettait sur ce lit.
Comment ?
On est en train de dire qu'il se mettait sur ce lit.
Oui, toute l'année. Mais quand il est à Vel, il doit le retourner.
Non, c'est pas lui.
Ah non, ça c'est spécial. Le Kohen Gadol, c'est spécial, bien sûr. Même si, je pense pas que c'est lié à la Machloket, même si je pense qu'on rache pas le Dargash, il faut le défaire. Mais Kohen Gadol, c'est spécial. On lui fait un honneur spécial parce que ça l'aide à dépasser sa souffrance. D'accord ? C'est une exception. Donc, voilà la nouvelle définition. Qu'est-ce qu'on a appelé Dargash ? C'est le Arsa de Tzala, un lit en peau. Tzala, c'est une peau en araméen. Mais donc, comme je disais, il y a quatre pieds. Il y a les Arkuvot Amita, c'est les planches latérales qui relient les quatre pieds. Et il y a une grande bâche en peau qui se termine avec des lanières. Les lanières s'attrapent dans les Arkuvot. Et c'est comme ça qu'on fait. Et je ne pense pas qu'il y avait de matelas par-dessus. On se couchait dessus. C'était un lit, comme on a dit, mobile. Et donc voilà. Itmar. Il a été dit au Beit HaMidrash, Mita, Ezeu Mita, Vezeu Dargash. C'est quoi la différence entre Mita et Dargash? Shema Ravir Mia, Mita Mesarginota al Gaba, Dargash Mesarginota Oto Megufo. La Mita, on est Mesareg. Les Sareg, ça veut dire faire le quadrillage avec un cordage tout autour. On a dit Yale Arkuvot à Mita, et on passe des cordes qui font la longueur en parallèle, d'autres qui font la largeur en parallèle, ça fait un quadrillage par-dessus lequel on mettra la literie. Ce quadrillage, il passe par-dessus et il s'attrape en dessous, on l'attache d'une manière ou d'une autre, mais l'idée c'est que les cordes passent par au-dessus les Arkuvot Amita. Tandis que le Dargash, ça passe à travers les Arkuvot, il y a des trous dans les Arkuvot Amita et c'est dedans qu'on passe les lanières. Mais ça revient auto migoufo, dans le corps même des Arkuvot, à mi-temps on fait passer les lanières. Il y avait où faire passer la lanière et d'attacher. Pourquoi il nous dit ça? Comme s'il veut expliquer quelque chose. Et on n'a pas le sentiment qu'il est venu s'opposer à Ravine. Il n'est pas présenté, ça a l'air d'être une mimra indépendante, d'une part. Et de plus, il ne se positionne pas de la même manière. Il n'est pas là à donner une définition, c'est quoi un dargash? Il nous dit, on connaît Mita, on connaît dargash, mais quelle différence? Ça veut dire, pourquoi ils ont un din différent? C'est parce qu'ils ont une conception différente. C'est ce qu'on ressent a priori, mais on n'arrive pas trop à comprendre pourquoi, comment ça va jouer sur le din, la conception telle ou telle. On a Tosfot qui nous sauve. Tosfot explique, alors ça ne va pas avec le ran, que j'ai mentionné précédemment, mais Tosfot explique, s'il y a un din que le dargash, d'après Chachamim, échappe à Kfiat Amita, c'est parce que quand tu le retournes, ça ne change pas trop. Qu'est-ce que ça va changer? Vu que les lanières s'attrapent dans les Arkuvot Amita au milieu des Arkuvot, disons là, les Arkuvot Amita font 15 cm, le cadre tout autour et les quatre pieds. Les lanières passent au milieu, que tu le mets dans un sens ou dans l'autre, ça ne change pas. C'est pas moins confortable. Tandis que Mita, hein, puisque le cordage passe au-dessus des Arkuvot, et les Arkuvot, elles ont leurs 15 cm. Moi, j'aurais dit même plus parce que Dargash, c'est un lit mobile, léger. Et Mita, c'est un vrai lit, stable. Donc peut-être même plus, je ne sais pas, peu importe, mais en tout cas. Et quand tu retournes, c'est peu commode. Tu as réduit le confort, c'est le but. C'est ça, la Kfiat Amita. Parce que tu as les Arkuvot qui dépassent. Pour trouver ton appui, ça creuse, tu t'enfonces. C'est pas à l'aise. Donc là, il y a un sens qu'on te dit, le Havel, il doit faire Kfiat Amita. Mais dans Dargash, non, c'est ça la raison. Et c'est ce que le Hamora voulait expliquer. Quelle est la différence de conception qui justifie la différence de din? Ce serait le sens de l'intervention ici de Rabbi Yirmiya, tel que je comprends dans Tosfot. Alors sur ça, la Gemara elle objecte, non? Mais tu vas. Keli etz, mais matai le kablin touma, les keli etz, des kelim en bois, hein, qui sont fabriqués, ils ont un din de mekabel touma. Maintenant, à partir de quel stade? Il faut toujours que le keli soit arrivé au stade de la finition. sauf si on a décidé de s'en servir sans telle ou telle finition. Mais si je n'ai pas eu cette décision, il faut en venir à la finition. C'est quoi la finition pour un lit? Alors, Amita et Arissa. L'Amita, c'est le lit d'un adulte. Arissa, c'est le berceau d'un enfant, un petit lit d'enfant. Mishei Shufam Be'oradag. Dès qu'on a poncé avec la peau du poisson, il prenait des peaux de poisson rugueuses, il faisait avec ça le ponçage, c'est la finition. Dès qu'on arrive à ce stade dans la fabrication du lit, c'est un lit fini, c'est Raoul et Kabel Touma. Be'imita Mistareget Al-Gaba. Si tu dis que Mita, le cordage, le quadrillage avec les cordes, ça passe par-dessus l'Arkuvot Amita. Lamali Shifat Oradag. À quoi sert le ponçage avec la peau de poisson? J'ai pas besoin de ponçage, puisque les Arkuvot sont pas nues, sont couvertes. Les Rishonim disent avec les cordes. Je me demande, est-ce qu'il y avait des cordes tout le long? Est-ce que c'était un quadrillage, vraiment des cordes serrées, comme si c'était un plan en cordage uniforme ou qu'un quadrillage? Je sais pas. D'habitude, les sarègues, c'est plutôt un quadrillage. Je ne sais pas exactement, mais en tout cas, si tu dis que les cordes passent par-dessus, le bois n'est pas visible, il n'y a pas besoin de poncer. C'est possible qu'au-dessus du cordage, on mettait un habillage, comme de nos jours, il y a des sommiers matelassés, je ne sais pas. Mais en tout cas, la Gemara, elle sait de quoi elle parle, elle dit que si jamais ça passe par-dessus, il n'y a aucune nécessité de poncer le bois, il n'est pas visible. Et donc, ça ne peut pas être la différence entre Mita et Arsa de Tzala. Et la Havea Migoufan, faut convenir que l'un comme l'autre, là c'est les Amoraïm qui réfléchissent par rapport au sujet, à l'époque des Tanaïm, qu'est-ce que les Tanaïm entendaient quand ils parlaient de Mita et de d'Argash? Alors on convient que c'est les deux la même manière. La conception sur ce plan, c'est la même chose. Que ce soit les lanières du Dargash, ou que ce soit le cordage, ça rentre dans les Arkuvot, Migoufan. Aucun ne passe par-dessus. Et la différence, Mita Aouleva Fouke Bazine, pour ce qui est du lit, le cordage, il rentre et il ressort dans des basinés, des trous qu'il y a dans les Arkuvot à Mita. Ça veut dire, disons, une corde, elle rentre dans un trou et elle ressort. Elle rentre en bas, elle sort et elle re-rentre. Et on attache. Il y a plusieurs cordes qui font comme ça, bref. Mais en tout cas, ça rentre, ça ressort. Il y a plusieurs trous le long des Arkuvot Amita. Tandis que Dargash, Aouleva Fouke Be'avakta, les lanières ne rentrent pas pour repasser. Les lanières s'attrapent à des anneaux. Ça veut dire, il y a plusieurs trous le long des Arkuvot Amita. Il y a des anneaux comme une boucle en corde solide à laquelle on passe la lanière et on attrape, on ferme la lanière. D'accord? Donc, ça c'est la différence de conception entre Dargash et Mita. Et là, ça me laisse un peu en difficulté, parce que j'étais content de voir que Tosfot trouvait un sens dans l'enseignement de Rabbi Irmiya sur ce plan. Est-ce que c'est quoi qui justifie le changement de din? L'un, il a plus besoin de Kfiya et l'autre non. Alors, pourquoi Rachamim dit qu'on n'a pas besoin de Kfiya dans Dargash? Alors, Tosfot l'a expliqué à travers ce chilouk que voulait relever Rabbi Irmiya. Mais maintenant, au final, c'est pas ça le chilouk. Les lanières passent toujours dans l'un ou dans l'autre, en plein milieu des 15 cm des Arkuvot Amita. Sauf que l'un, c'est la corde qui passe, l'autre, c'est un anneau à laquelle la lanière s'attache. Qu'est-ce que ça change en termes de Kfiya? Pourquoi ici il y a plus besoin, ici il y a moins? Ça, je ne sais plus. Tosfot n'a rien dit sur ça. Il faudrait trouver une autre idée pour comprendre l'intention de Rabbi Irmiya ici, selon la conclusion, que comment ça va justifier du point de vue des Chachamim que tantôt Mita ya Kfiyat Amita et Dargash non. Ça, je ne sais pas comment on expliquera. En tout cas, c'est la conclusion de la Gemara qu'en termes de conception, voilà la différence. Mis à part ce qu'a dit Ravid, bien sûr, que Dargash, ça reste un lit mobile. Un lit d'appoint pour le déplacement, comme ça certains expliquent, et que c'est un lit fait avec une peau plutôt que des cordages. Amarabi Yaakov Baracha Amarabi, Mita Shenaklitea Yotin, un lit dont les naklitines dépassent Zokfa Vedayo. Alors il le retourne et ça suffit. Il le retourne sur le côté. Alors c'est quoi les naklitines? on voit ça aussi dans Maseret Souka, c'est aux deux extrémités du lit, on met une perche verticale de part et d'autre, et sur laquelle on va passer un canet, un roseau, auquel on suspend un tissu au-dessus du lit. Alors, si ces deux naclitines sont fixées dans le lit, on ne peut pas les enlever. Alors, comment tu retournes le lit? Ça peut pas se faire. Alors, ce lit, il suffit d'être zokef, ça veut dire le mettre sur le côté. Dresser le lit, ça veut dire tu mets le lit sur son flanc et il est dressé. Puis, tu ne veux pas le retourner entièrement. Ça, ce sera la manière de faire kfiat amita pour un tel lit. Et ça suffit. Alors qu'un lit normal, ça ne suffit pas, il faut le retourner complètement. Amarav Yaakov Baridi, Amarav Shom Ben Levi, Alakha Kerav Shimon Ben Gamliel. Alakha Lekom Rashba qui disait plus haut que même le dargash, ça requiert kfiat amita partielle. On défait les lanières et ça s'affaisse. Et c'est la solution. Mishnah. Hanoder Minahir Mutar Likanes Litrouma Shel Ir. Quelqu'un, il a fait l'idée de ne pas circuler, de ne pas rentrer dans telle ville. Il peut néanmoins circuler dans le troum de la ville. C'est le périmètre autour d'une ville qui s'appelle le troum, les 2000 amot. Ve'asur likanes li'ibura. Mais ibur ha'ir, il ne peut pas pénétrer. C'est quoi ibur ha'ir? C'est comme on voit dans Maseret Iruvin, il faut d'abord délimiter la ville. Avant de commencer à compter le périmètre du troum Shabbat, 2000 amot, il faut déjà pouvoir établir une délimitation dans les quatre côtés, nord, sud, est, ouest. Ce n'est pas une forme arrondie parce que la ville, elle est arrondie. Même si la ville est arrondie, on établit une délimitation carrée en référence à la maison la plus excentrée, au nord, au sud, à l'est, etc. Et je trace mes lignes nord-sud pour le côté est, le plus éloigné en référence à la maison la plus excentrée, et ainsi des quatre côtés. Une fois qu'on a fait cette délimitation, alors on commence à compter 2000 amot, et ça c'est le Troum Shabbat. Donc la ville, elle a une forme carrée, théorique, même si elle a une forme très bizarre, elle aura une forme ou carrée ou rectangle, parce que tout de suite, on trace des lignes, comme on a dit, et toujours avec le repère le plus excentré, c'est la maison, l'habitation la plus excentrée de la ville. Maintenant, tant qu'il y a encore des maisons, ben on décale. S'il y a un intervalle de moins, pas plus que 70 amot et des poussières, et ben la maison s'appelle faisant partie de la ville. Et ça décale d'autant la limite. S'il y en a encore, ça peut être des kilomètres. Ça décale la limite. C'est encore la ville. Et donc, cette partie-là, on appelle ça Ibur ha'ir. Ibur ha'ir, c'est que c'est pas l'agglomération. Il n'y a qu'une ou deux maisons. Et les maisons se suivent. Et tu mets Aber dans le sens de Hisham et Uberet. Que tu l'intègres dans la ville, comme le ventre de la femme qui englobe un bébé. Là aussi, le fait d'englober cette maison dans la ville, ben ça veut dire que la ville est agrandie d'autant. Et ainsi de suite, même plusieurs fois. Alors cet espace s'appelle Ibur ha'ir.
Si on fait un carré, toute la partie vide fait partie de la ville.
C'est Ibur, c'est Ibur.
Oui, tout ça aussi, ça fait partie de Ibur ha'ir. Et donc maintenant, lui, le Moudar, ne pourra pas circuler dans Ibur ha'ir. Parce que Ibur ha'ir, ça s'appelle la ville. Par contre, le Troum n'est pas la ville. C'est le Troum ha'ir. Aval anoder mina bayit, pardon, oui, c'est ça. Le mot aval, je ne sais pas comment le traduire. Anoder mina bayit asur mina agav elifnim. Je vois ça comme un sujet plutôt indépendant, mais c'est écrit aval. Il faut savoir expliquer. Mais par contre, dans la Gemara, hein, quand on va citer cette phrase dans la Pisca, il n'y aura pas le mot aval. Donc il faut voir de plus près, je n'ai pas eu le temps de voir. En tout cas, celui qui est anoder mina bayit, il ne doit pas rentrer dans une maison. Ben, il est asur min agav elifnim. Agaf, c'est là où la porte, elle bat sur ben, l'encadrement, les linteaux, le poteau, etc. Là où la porte, elle bat, c'est là la limite. Pourtant, le mur, il est plus épais. Donc, tu rentres dans la maison, il y a la porte, tu peux encore être là. Ça ne s'appelle pas que tu es dans la maison. Être dans la maison, c'est l'espace intérieur de la maison qui est délimité par la porte, l'emplacement où la porte se ferme, elle bat. D'accord? Ça, c'est agaf. Mais dans l'un des ibourins des matas, que matadami. Témoin l'agmara, on sait que le ibour d'une ville, c'est comme la ville elle-même. Amarabi Yochanan, de Amarkra, le pasukadi, vaï biyot Yoshua biricho. Ce fut lorsque Yoshua est à Yericho, il lève les yeux, il voit un homme, l'ange, etc. Bref, Et la question, que veut dire dans Yericho? Il est ma biricho, ma mâche, si tu l'entends au sens littéral. Véactive, mais il est écrit là-bas, Yericho sogeret ou msugeret. Yericho était une ville barricadée, fermée avec une muraille. Comment il pouvait se retrouver dedans? Et la shmamina, beiboura. Il était dans l'Iburaïr, et ça s'appelle Yericho. Et donc on a la preuve que l'Iburaïr s'appelle. Il y a une partie extérieure à la ville, qui est annexée à la ville, qui forcément s'appelle la ville, puisque sinon comment tu traduis ce passouk? Il est dans la ville alors que c'est impossible d'être dedans littéralement. Donc il était dans la Ibour et ça s'appelle Vayhi Biyot Yoshua Biricho. Donc c'est comme la ville. Tilagmara Ema Filou Bitrouma. Mais peut-être c'est même dans le Troum. Qui a dit qu'il était dans la Ibour? Peut-être qu'il était dans le périmètre plus éloigné, là où il n'y a plus d'habitation, ce qu'on appelle nous le Troum d'une ville. Et que quand même ça s'appelle Vayi Biyot Yoshua Biricho. Peut-être que ça ne s'arrête pas au Ibouraïr. Le Troum s'appelle encore la ville. Dit l'Agmara, non là, ça s'arrête. Active, il y a un passou qui a dit Bitrouma concernant le Troum de la ville. Umadotem Ichutz Laïr. À propos des villes de Haré Alviyim, la Torah dit qu'il faudra donner au Alviyim 42 villes, etc., à parler à Haré Miklat. Et elle nous dit que vous mesurerez autour de la ville le périmètre. Madotem. Michutz Laïr. C'est-à-dire que le Troum, il est Michutz Laïr. Sur ça, il n'y a pas à hésiter. Ça s'entend clairement dans la Torah. Par contre, dans Yeshua, ce que j'apprends, c'est qu'il y a un périmètre extérieur, mais qui s'appelle encore la ville. Mais ça ne peut pas être le Troum, puisque dans la Torah, j'ai appris que le Troum, c'est Troum Aïr, ce n'est pas la ville elle-même. Donc, c'est bien le Hibour. C'est pour ça que Rabbi Hanan, il nous dit, c'est pour ça que dans la Mishnah, on a ainsi établi les limites de ce neder, que ça comprend que le hibour et pas le troum. Aval, mina agaf, pardon, hanoder mina bait, eno asur et la mina agaf et l'iflim. Demande la Gemara, aval mina agaf et la chutzlo. Ça induit que s'il est mina agaf plus extérieur, c'est pas inclus dans le neder et il a le droit. Ça veut dire être dans la maison, c'est pas être. Les murs souvent étaient larges à l'époque, épais. Même s'il n'est pas épais, on peut se poser la question. Je suis sous l'épaisseur du mur parce que je me suis avancé dans l'entrée. C'est pas être dans la maison, ça? Alors la Mishnah dit que pas toujours, ça dépend. Il y a une limite qui est le agaf qui détermine si on est dans ou dehors. Demande la Gemara, hein? Quoi, parce que tu es dehors plus extérieur que le agaf, ça s'appelle pas dans la maison, mais tu es Rav Mari. Rav Mari objecte à propos de Tzarat Habayit. La Torah nous dit que si le Kohen a remarqué une tzaraat qui nécessite d'enfermer la maison pour 7 jours et réexaminer par la suite, Veyatza Kohen min habayit, le Kohen sort de la maison, Veisgir, et il va enfermer, fermer, comment dit, il met sous scellé pour 7 jours. Yachol yeler lebeto veyasgir. Peut-être que le Kohen Gadol, le Kohen qui traite la tzaraat, peut-être qu'il peut aller chez lui, et de chez lui, fermé. Comment de chez lui? Il va demander à un chaliar d'aller fermer. Il fait fermer, mais il n'a pas besoin de fermer lui-même sur place. Talmud Lomar El Petah Habayit. C'est pourquoi la Torah a précisé Veyatza El Petah Habayit. Il sort au seuil de la maison. Et El Petah Habayit. Alors si c'est lui qui se trouve là, sur le seuil, et qui va fermer, Yachol Yamod Tachat HaMashkov Yaskir. Peut-être qu'il peut se permettre de se tenir sous le Mashkov. Mashkov, c'est le linteau. Ça veut dire qu'il est dans, il est engagé dans l'espace de l'entrée, sous le linteau, et de là il ferme à clé. Talmud Lomar minabait. Il doit sortir de la maison. Ça se traduit comment? Acheyetse minabait kulo. Ça s'appelle qu'il est yotze que s'il est yotze entièrement. Il doit être à ciel ouvert. Il ne peut pas être sous le linteau de l'entrée. Donc tu vois bien que être dans l'espace de l'entrée, même mina agave la route, ça s'appelle pas encore être à l'extérieur, t'es encore dedans. Alors pourquoi en matière de nedarim on a dit que mina agave la route c'est permis? Et la braïta elle termine à ketzad. Concrètement comment ça se passe? Omed betzad a mashkof, il se tient à côté du mashkof. Le linteau ça veut dire en retrait, pas en dessous. Veyas Gereifer, point. Uminaïn, la braïta termine. Uminaïn, j'ai malach le betovizgir. Oshé amatarata amaskovizgir. Chezgero es mouskar. Et donc, on sait que s'il n'a pas respecté ses exigences qu'on vient d'établir, de chez lui, il a fait fermer. Ou bien, il était sous le linteau, il ne s'est pas mis en retrait. Que malgré tout, le hesger est valable. Ça s'appelle hesger. On attend les 7 jours et on continue la procédure normalement. Talmud Lomar veisgir et abayit mikol makom. Point. En tout cas, cette braïta cause problème. Réponse. Shanegabe bayit. Ou c'est différent à propos de Bet Hamenuga. Comme ça, ils ont rajouté. Dirtif, parce que la Torah dit Minabayit. Le Kohen, il sortira Minabayit. Quand tu dis Minabayit, ça s'entend à Tcheyite Minabayit Kulo. Il sort entièrement de la maison. Sinon, on aurait dit ça. On sait qu'il était dedans. Quand tu dis il sort, ça veut dire qu'il sort. Il sort de la maison, je l'ai entendu. Tu n'as pas besoin de le dire. Tu dis minabait, c'est pour dire entièrement. C'est pourquoi là-bas, tu ne peux pas être en dessous du linteau. Minagave la route, ce n'est pas assez. Par contre, stam, bait, c'est délimité jusqu'au agaf. Passer le agaf, ce n'est plus bait. Et donc, le moudar, il peut rester en dessous du agaf s'il voulait.
J'ai pas compris la différence là. On dit la même chose. C'est quand t'es sous le mashkov, donc t'es encore dans le agaf. Donc...